en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 10 décembre 2008, à l'Institut de France, se tenait un colloque sur le thème de l'enquête du Régent, enquête qui vient d'être republiée par les éditions Brepols. Rappelons que le Régent, Philippe d'Orléans, gouverna pendant la minorité de Louis XV, soit de 1715 à 1723. Pendant sa régence, il fit mener une vaste enquête dans le royaume, sous l'égide de l'Académie des sciences, et cette enquête avait pour objectif d'évaluer les ressources naturelles du pays en vue de restaurer l'économie. Dans l'intervention que vous allez entendre maintenant, Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, rappelle le rôle joué par Fontenelle. Bernard Le Bouillet de Fontenelle, en effet, était directeur de l'Académie royale des sciences à l'époque de l'enquête demandée par le Régent. Il avait été élu à l'Académie française en 1691. Écoutez le parcours de ce savant à la longue vie, il mourra quasi centenaire, évoqué par Hélène Carrère-Dancausse.
Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour avoir associé Fontenelle, non pas le Fontenelle de l'Académie des sciences dont Mme Mazurek parlera, mais le Fontenelle de l'Académie française à cette réflexion. Ils ont eu raison, parce que le Fontenelle de l'Académie française, en dépit de ses activités très différentes de celles de l'Académie des sciences, joue un rôle dans toute cette période et dans l'évolution des esprits de cette période. Alors, je voudrais d'abord rappeler, ce Fontenelle a été pendant 66 ans membre de l'Académie française, un petit peu plus longtemps, à peu de choses près, que membre de l'Académie des sciences, mais il n'a pas été secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et justement, ce qui est intéressant, ce sont ses activités à l'Académie française, très lourdes, au regard de ce qu'il faisait à l'Académie des sciences, qui était considérable dans cette période de sa vie. Alors, Fontenelle était pas le scientifique, et sur le scientifique, je ne me prononcerai pas, j'ai lu beaucoup de choses, qu'il était un grand scientifique ou pas un grand scientifique, enfin, mais c'était un esprit universel, et qui a joué un rôle dans le domaine littéraire et dans le développement à la fois de la langue et de la pensée, qui dépasse à peu près le rôle de tous ceux qui jouent un rôle à l'Académie française à cette époque-là. C'était un phénomène. C'était à la fois, il a tout écrit. Il était poète, il était librettiste d'opéra, il était dramaturge et de très grande qualité, et très fécond. Il était auteur d'ouvrages philosophiques et d'ouvrages scientifiques, ça c'est un autre problème. Et c'est une œuvre monumentale qui a placé tout entière sous une qualification, sous celle qu'il s'est donnée. Il reliait tout ça dans son statut de géomètre qu'il revendique à toutes les étapes. Et je crois que c'est extrêmement important. C'est l'époque où le statut de géomètre apparaît, je crois, le plus nettement. Il n'a été élu à l'Académie française, je voudrais le souligner, qu'à sa cinquième tentative, cet auteur fécond n'est entré qu'à la cinquième tentative, en 1691. Et c'est intéressant parce qu'il y a un exemple qui, pour la difficulté d'élection et pour le rôle joué, lui ressemble. C'est Victor Hugo. Tous les deux sont entrés à leur cinquième tentative. Tous les deux ont forcé les portes de l'Académie, véritablement, alors que Fontenelle était le neveu des deux frères Corneille, ce qui était tout de même une généalogie remarquable. Et tous les deux ont fait basculer l'Académie française d'une tradition à une autre tradition qu'elle se refusait à accepter. Fontenelle a fait basculer l'Académie française de ce qu'on pourrait appeler l'amour des anciens, c'était la grande période de la querelle des anciens et des modernes, vers les modernes. Il était le moderne élu, il est celui qui a fait entrer systématiquement tout ce qui représentait l'esprit moderne à l'Académie. De la même façon, Victor Hugo lui a fait basculer l'Académie du classicisme au romantisme. Il a forcé les portes comme romantique et il a ouvert la porte à tous les romantiques et il a transformé à cet égard l'Académie. Il y a donc une parenté entre eux qui est assez impressionnante et qui est impressionnante aussi, je dirais, par le volume de l'œuvre. Il y a dans ces deux esprits quelque chose de très voisin. Alors, l'académicien Fontenelle, qui 66 ans est à l'Académie, pendant 33 ans en est doyen d'élection, on aurait pu penser, puisqu'il a été élu à l'Académie des sciences très peu après son élection à l'Académie française et qu'en 99, c'est-à-dire il était depuis peu à l'Académie française, il devient secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il va jouer ce rôle pendant plus de 40 ans, et il a des charges extrêmement lourdes. on pourrait penser qu'il n'avait guère de temps pour l'Académie française. Or, très curieusement, c'est le personnage, dans cette vie si longue, c'est le personnage le plus actif, le plus chargé. Il n'a pas été secrétaire perpétuel, mais il est constamment directeur, chancelier, en train d'accueillir de nouveaux académiciens, faisant des harangues au roi, c'est-à-dire qu'il est celui qui cumule toutes les charges, ce qui, quand on regarde à la fois la vie de l'Académie française et j'ai regardé ses activités à l'Académie des sciences, est proprement incompréhensible, et ça l'est encore plus, et je vais revenir sur le contenu, encore plus quand on avance dans le temps et qu'on constate il a quitté sa fonction de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 1741, je crois, quelque chose, enfin 41 ou 42, enfin la vie n'est pas encore achevée, il meurt quasi centenaire, mais à 98 ans et 99, on le retrouve encore courant l'Académie française avec une régularité absolue et assumant encore des tâches, ce qui est proprement étonnant. Et ça n'était pas vraiment, je dirais, des activités secondaires. Il est une des figures marquantes de cette Académie. Et il s'impose d'ailleurs dans tous les moments très difficiles. Et notamment, je regardais les dates de l'enquête du régent. 1718, c'est la date où éclate l'un des deux grands scandales de l'histoire de l'Académie française. L'abbé de Saint-Pierre, qui justement est celui qui avait déclaré quelques années auparavant, regardant les activités de son confrère à l'Académie des sciences, avait demandé à l'Académie française de lui confier les mêmes fonctions, qui constate que l'Académie française n'a jamais eu ce mémorialiste, cet historien que l'Académie des sciences s'est offert, et il a réclamé que l'Académie française suive l'exemple de l'Académie des sciences. Il n'a pas été entendu, mais cette exigence de l'abbé de Saint-Pierre montre bien à quel point, je dirais, Fontenelle apparaît comme la figure capable d'assumer le rôle des deux côtés. Or, en 1718, nous sommes en plein dans l'enquête du régent, c'est le moment où l'abbé de Saint-Pierre produit un ouvrage qui est extraordinairement critique pour la politique de Louis XIV, qui est un péant à l'activité du régent, à son activité politique, à la forme de gouvernement, à la fameuse polysynodie. Et l'Académie française en a fait un esclandre, elle a trouvé que cette... toujours la querelle des anciennes et des modernes. Cette gloire faite au régent au détriment de Louis XIV était un scandale et elle a décidé d'exclure l'abbé de Saint-Pierre. Et l'abbé de Saint-Pierre a été exclu et d'ailleurs il a été exclu avec l'accord du régent. C'est tout à fait remarquable. Ça se situe exactement à ce moment-là. Ça vous montre à quel point il y a dans cette vie, je dirais, des deux académies du milieu intellectuel, quelque chose d'assez voisin. En tout cas, l'activité de Fontenelle coïncide dès le début avec le tournant de la vie, je dirais de la vie intellectuelle française, le tournant des mentalités. Puisqu'au fond, c'est vers 1680 que la préciosité disparaît pour faire place à la princesse de Clèves, à une littérature plus, je dirais déjà, d'apparence plus classique. C'est aussi le moment où Pierre Bel prépare son dictionnaire, c'est-à-dire c'est le moment où des idées plus rigoureuses font leur apparition. Et il y a Malebranche, Cyrano de Bergerac, ou véritablement une réflexion beaucoup plus poussée sur l'organisation de la société, utopique ou non, sur la raison. Tout cela occupe l'espace intellectuel, et on peut dire que Fontenelle est l'homme qui apporte ça à l'Académie, d'autant plus que l'Académie française a à ce moment-là un caractère extraordinairement clérical. Car toujours au moment de l'enquête du régent, 1718, l'Académie française compte 24 ecclésiastiques pour 40 membres. Alors je sais bien que le clergé était la partie la plus éduquée de la société, en tout cas plus éduquée largement que l'aristocratie militaire. Mais néanmoins, on voit très bien quelle pesanteur de la réflexion cette structure sociale et intellectuelle de l'Académie fait peser sur l'institution. Et précisément, c'est dans ce climat-là que Fontenelle représente une autre conception, et où il lutte dans l'ensemble contre la conception. Il est d'ailleurs le seul, quand on exclut l'abbé de Saint-Pierre, il est le seul qui est voté contre, c'est-à-dire qui a sauvé l'honneur de l'Académie française. Alors, bon, son œuvre, on peut dire que cet homme se déploie au moment où vraiment on se trouve entre un passé pesant, dont l'Académie dans sa structure est largement passé pesant, assez clérical, assez, assez peu rationnel, et où émerge l'idée d'un homme différent, fondé sur la science, sur le savoir, sur la raison, et avec l'esprit critique, le géomètre, exactement, ce que dit Fontenelle. Et l'œuvre de Fontenelle coïncide avec ça. Ce qu'il écrit avant et après, l'œuvre littéraire, l'œuvre de Fontenelle, le nouveau dialogue des morts, qui est tellement sceptique, qui assure la permanence de la nature humaine, les entretiens sur la pluralité des mondes, œuvre extraordinaire, qu'à mon grand étonnement, alors que je crois la plupart de ceux qui sont dans cette salle à l'école ont lu ça, et j'ai constaté que les enfants ou les adolescents qui ont aujourd'hui 20 ans n'ont jamais entendu parler de ça, ce qui est assez intéressant sur le plan de l'évolution de la formation. Même le titre ne leur dit rien. Bon, là apparaît l'œuvre de Descartes et de Copernic, la pensée de Descartes et de Copernic, l'histoire des oracles, qui mettent en cause véritablement toutes les formes de superstition et qui prônent encore une fois, même dans le domaine de... avec prudence, parce que Fontenelle ne tenait pas allé à la Bastille, mais il a été à deux doigts, qui prônent véritablement l'introduction de la raison dans la réflexion de la foi. Bon, toutes les digressions sur les anciens et les modernes, d'ailleurs, qui sont au cœur de toute sa vie académique, son œuvre là-dessus, on peut dire donc qu'il a une œuvre monumentale, je ne dis que les titres qui marquent dans toutes les querelles de l'époque. Et ça lui donne, si vous voulez, une place tout à fait remarquable au sein de l'Académie, mais dans la pensée de son époque. Alors, il ne joue pas le rôle que peut jouer, parce que l'Académie ne le lui demande pas, que va jouer l'autre Fontenelle, le Fontenelle de l'Académie des sciences. Il fait l'histoire de l'Académie des sciences par ses éloges qui sont innombrables. Il fait l'histoire des scientifiques de l'Académie à laquelle il appartient, et de la science à son époque. C'est vraiment le début de l'histoire des sciences. Mais je dirais que le Fontenelle de l'Académie française, sans être chargé de cette mission, joue un rôle dans l'évolution des mentalités qui est non moins considérable. D'abord, il fait rentrer les modernes dans l'Académie, et par là même, il modifie déjà l'allure de cette institution qui est le cœur de la réflexion littéraire et philosophique en France. Et puis, par ses travaux, d'abord, ce qui est important, il modifie aussi la langue française. Et ça aussi, c'est extrêmement important. La langue avec laquelle il entre, la langue qui domine au moment où il entre à l'Académie, c'est la langue du XVIIe siècle, qui est majestueuse, qui est splendide, mais qui est relativement figée, relativement lourde, peu propice à l'évolution scientifique qui est en train de commencer. Or, justement, Fontenelle, dans cette immense œuvre littéraire, il manie une langue extraordinairement légère, moderne, brève, incisive. On peut dire que c'est déjà la langue de Voltaire ou de Marivaux, et elle va favoriser l'apparition de toute la littérature des encyclopédistes. C'est un des pères, il n'en est pas chargé, mais incontestablement, à travers son œuvre, c'est un des pères de l'histoire littéraire en France. C'est le plus grand, c'est le premier et peut-être l'un des meilleurs théoriciens de la poésie. Et notamment, il a proposé à Diderot, pour l'encyclopédie, un article, une contribution sur la poésie grecque, qui a effrayé Diderot, qui a trouvé que c'était absolument impubliable, ce qui montre à quel point ce Fontenelle installé à l'Académie était beaucoup plus audacieux qu'un Diderot, qui a trouvé qu'il fallait manier avec prudence toute réflexion sur la poésie grecque. Et surtout, je dirais, il a ouvert vraiment la porte aux idées des encyclopédistes, dans les Eutrantiens sur la pluralité des mondes, dans les oracles. Au fond, il a, à sa manière, fait la même chose à l'Académie française qu'à l'Académie des sciences, c'est-à-dire il développe dans les mentalités, à travers son œuvre plus littéraire que scientifique. Alors je sais, moi j'ai entendu dire que justement, ce n'était pas un homme de science, c'est un vulgarisateur. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, il développe justement, à travers une œuvre littéraire, qui est d'une qualité exceptionnelle, il développe dans les mentalités l'esprit scientifique, l'idée d'une approche scientifique de tout, du passé, de la foi, de tout ce que la culture a accumulé. Et au fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réconcilié l'esprit scientifique et la littérature. Il jette un pont entre les deux. Il met la littérature au service de l'esprit scientifique. Et il donne à l'esprit scientifique les outils littéraires pour cheminer davantage. Et on peut dire que s'il a été un vulgarisateur, c'est aussi parce qu'il a pu, dans l'œuvre scientifique, avancer avec cette langue extraordinaire qui rendait les idées infiniment plus accessibles et plus séduisantes. Au fond, grâce à lui, la littérature va participer, grâce à ce Fontenelle littéraire, la littérature va participer à l'explication rationnelle du monde. C'est ça qui est tout à fait remarquable. Alors enfin, c'est le dernier point. Justement, dans ce modernisme de Fontenelle, eh bien, c'est sur les entretiens sur la pluralité des mondes en sont témoins, mais aussi c'est l'époque des salons, et de salons qui évoluent sous l'influence de Fontenelle, c'est-à-dire les salons mondains, les salons de la préciosité, deviennent des salons où on commence à discuter et des oracles, et des idées de Fontenelle, et de la pluralité des mondes, et il fait des femmes ses interlocutrices. Les salons étaient des salons de femmes, mais il réhabilite la femme, et ça c'est aussi... Je dirais que c'est le grand féministe de ce siècle. C'est celui qui montre, et les entretiens sur la pluralité le montrent, que la femme est l'interlocuteur privilégié du philosophe. Jusque-là, c'était la femme savante dont on s'était moqué. Or, les femmes sont celles qui tiennent les salons où cheminent les idées. Et en les réhabilitant, il donne aux idées que le scientifique Fontenelle propage d'ailleurs, une force extraordinaire parce qu'il leur ouvre l'accès du grand monde en utilisant pour les porter celles qui sont les intermédiaires entre la société et le monde d'où émanent ces idées. Alors, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que tout de même, aussi grâce à sa très longue vie et à cette œuvre monumentale, alors là, ce ne sont plus les biographies des savants, c'est son œuvre personnelle, son œuvre littéraire, elle lui appartient tout entière, et une fois encore, elle est considérable. Eh bien, cette œuvre, elle représente avec Fontenelle ce pont entre le siècle de Louis XIV et pratiquement les idées des Lumières et la veille de la Révolution française. Il était en effet, beaucoup de ses interlocuteurs l'ont dit, il était celui qui, après le régent déjà, pouvait parler du siècle de Louis XIV et raconter comment ça se passait à sa cour. Il est, je veux dire, celui qui assure la continuité d'une pensée française et qui, en même temps, a contribué dans les esprits, dans les mentalités sociales, à la faire bouger, c'est-à-dire, je ne sais pas si, une fois encore, si ses écrits scientifiques étaient révolutionnaires, mais introduire la pensée scientifique, l'idée que la science appartient à l'univers de l'honnête homme, que l'honnête homme est scientifique, dans une langue magnifique, c'était quelque chose de révolutionnaire à cette époque-là. Et à cet égard, il a fait, et aussi en faisant évoluer la langue française, son apport, je dirais, aux mentalités de son époque est absolument considérable. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, lors du colloque consacré à l'enquête du régent.